On va parler du sujet de l'humilité. Tu peux l'envoyer, le PowerPoint. Mais avant ça, on est rendu là, dans le fond, dans notre étude de Romains. Avant ça, j'avais deux petites images ou deux petites réflexions par rapport à ça que je voulais partager avec vous autres, histoire de se faire rire un petit peu, là. Mais je trouve quand même intéressante celle-là. On va revenir un petit peu sur cette idée-là avant. Hein? Il dit, au fond, je crois que si j'avais de l'humilité, je serais vraiment parfait. je pense qu'il y avait déjà un problème de base. La prochaine, je ne sais pas, je pense que je l'ai déjà vue à Gatineau quelque part. Je pense que maintenant, on va essayer d'en trouver une copie de cette affiche-là. On va vous laisser la lire un petit peu. Là, ça parle des téléphones cellulaires, évidemment. Donc, je trouvais ça intéressant, hein, qu'on peut recevoir l'appel de Dieu, mais ce ne sera pas par cellulaire si Dieu nous appelle, donc on peut le fermer. Mais en petite note en bas, je la trouvais vraiment particulière. Hein, si vous voulez parler à Dieu, entrez, trouvez-vous un petit coin de calme si vous voulez parler à Dieu. Mais si vous voulez voir Dieu, envoyez-lui un texto en conduisant. Elle est plus ou moins en rapport avec l'Église, là, mais je la trouvais quand même pertinente. Donc, j'ai sorti quelques sur Internet en cherchant des illustrations. Je suis tombé sur quelques des expressions ou des petites pensées par rapport à l'humilité. Je trouvais ça intéressant de les partager avec vous comme introduction. Donc la première, notre humilité, c'est la seule chose pour laquelle nous pouvons prier toute notre vie et pour laquelle nous ne pourrons jamais remercier Dieu de nous l'avoir donné. Hein? Parce qu'un jour, on va dire merci à Dieu de nous l'avoir donné, c'est peut-être parce qu'on l'a perdu. C'est un petit peu l'idée. Hein? Et l'autre est un petit peu semblable. L'humilité est une chose étrange. À chaque fois que tu penses l'avoir atteint, tu la perds. Et l'autre aussi, ça va être plus dans, vraiment, on va le voir vraiment dans les prochaines études. L'humilité comprend deux choses. Premièrement, une capacité d'autocritique, donc de se critiquer soi-même, etc. Mais deuxièmement, la capacité de permettre aux autres de briller, d'affermir les autres et de leur donner le crédit aussi. Je pense que c'est quand même une belle définition de l'autorité. Donc, j'aimerais commencer mon étude de ce matin avec une petite histoire, elle va être très brève. Mais un jour, c'est un prédicateur qui était vraiment utilisé puissamment par le Seigneur dans son ministère. Et une nuit, il a eu un rêve. Il a rêvé qu'il était justement particulièrement fier de lui, de ses dons et de tout ce qu'il accomplissait. Et il y a un ange qui lui était apparu dans son rêve et qui lui a dit, il dit, tu sais, la popularité de ton ministère, c'est principalement dû à la vieille veuve, la pauvre veuve qui est assise au pied de la chaire à chaque semaine et qui prie fidèlement pour toi. Donc le crédit, dans son rêve, ne lui revenait pas à lui, mais aux prières de la pauvre veuve qui était assise dans l'église. Je pense que pour lui, ça a été quand même si c'était un rêve, ça a été toute une révélation qu'il a eu probablement pendant plusieurs années, du moins, à se garder contre l'orgueil de se penser bon, de se penser supérieur, hein, que l'ange lui avertit. Non, c'est à cause des prières de la dame que tu es rendu là. Et pour nous aussi, c'est certainement un avertissement de se garder, d'interpréter peut-être même notre succès. Si, par exemple, on est un évangéliste et qu'il y a beaucoup de conversions, notre succès peut être attribuable même à une personne qui prie pour nous autres ou ces personnes-là, peut-être qui priaient pour que Dieu envoie quelqu'un. Donc, faisons attention de ne pas avoir une trop haute opinion en notre faveur et d'interpréter trop hâtivement. Donc, comme je l'ai dit, cette semaine, on va aborder le sujet de l'humilité. On va revenir à cette image-là tout à l'heure. Là. Un petit garçon de 4 ans, ça, qui sur Internet, il imite des prédicateurs. Là. Cette semaine, on va parler de l'humilité. On est rendu au chapitre 12. Vous pouvez tourner avec moi dans Romains, chapitre 12. On va regarder les versets 3 et 16. ce matin ensemble, parce que les deux textes, je pense, doivent être étudiés ensemble. D'ailleurs, je pense que tout ce qui se trouve entre le verset 3 et le verset 16 doit vraiment être lu à la lumière de ces deux versets-là, que tout ce qui est entre les deux doit être vraiment dans une attitude d'humilité. Donc, disons ça, le verset 3 de Romains 12, premièrement, qui nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Si on continue au verset 16 du même chapitre, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Donc, on a tout un sujet ce matin, on va aller quand même assez rapidement dedans, mais on va pouvoir revenir tout au long de nos prochaines études sur ce sujet-là. On va juste prier ce matin. Bien oui, Seigneur, merci pour ta parole encore qu'on peut ouvrir ce matin. Merci, comme notre sœur l'a dit tout à l'heure, du privilège qu'on a de pouvoir s'assembler. Merci d'avoir incliné le cœur de nos gouvernements pour permettre ce genre de rencontre, qu'on puisse être édifiés mutuellement, encouragés ensemble, Seigneur, qu'on puisse vivre cette communion fraternelle, bien qu'un peu limitée, mais Seigneur, on peut l'avoir quand même. Alors, merci Seigneur, et certainement on veut te remettre ce temps entre tes mains. Prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as à dire, prépare ma bouche. Seigneur, utilise ma bouche pour nous parler et que moi le premier, Seigneur, je puisse vraiment vivre cette vérité de tes Écritures pour le reste de ma vie. C'est en Jésus que je te le demande. Amen. Donc, premièrement, Paul commence le verset 3, dit « Par la grâce qui m'a été donnée. » Donc, ici, en parlant de cette grâce, Paul fait référence à son appel apostolique. Donc, il a été appelé comme apôtre des païens. Et c'est ça qui lui donne finalement l'autorité pour émettre de telles directives, de telles recommandations, hein, non pas qu'elles viennent de lui, mais qu'il possède la crédibilité, mais surtout le mandat qui lui vient de Dieu pour nous faire connaître des directives comme celle-là, de ce que Dieu attend de nous. Et le fait, l'appel à l'humilité qui est ici, ça fait partie de ce que Dieu attend de nous comme nouvelle créature. Comme on a vu la dernière fois, l'intelligence renouvelée, ça fait partie de ça. Donc, notre étude de ce matin va se séparer en trois parties. Premièrement, on voit que nous sommes appelés à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Mais est-ce que c'est possible? Un enfant de Dieu qui a une trop haute opinion de lui-même. Bien, voyons donc, ça ne se peut pas. Hein? Ouais, si on pense que ça ne se peut pas, on a peut-être justement besoin de ça. Hein? N'est-ce pas? C'est vraiment une loupe, là, mais un cycle. Hein, que ça, tu t'en sors pas finalement. Tu ne penses pas en avoir besoin, c'est parce que tu en as besoin, effectivement. Donc, dans les Écritures, on appelle ça des orgueilleux. Quelqu'un qui a une trop haute opinion de lui-même, c'est un orgueilleux. Et ce que disent les Écritures au sujet des orgueilleux, eh bien, ce n'est pas trop enviable à leur sujet. Eh bien, premièrement, Paul vient de nous donner la description de quoi avait l'air le siècle présent. Au début de son épître, vous vous rappelez, il y avait plein de descriptions. Et parmi celles-là, il disait que dans le siècle présent, les gens se vantent d'être sages. Hein, on voit ça dans le verset 16 de notre texte. Se vantent ils sont arrogants, ils sont hautains. Donc, c'est comme ça qu'est le siècle présent dans le temps de Paul, mais comme on l'a vu, qui est notre siècle présent aussi. Les gens sont comme ça aujourd'hui. Et c'est déjà la première raison pour laquelle on ne voudrait pas être comme ça nous aussi, parce qu'on est appelé à ne pas se conformer au siècle présent. Et ça fait partie de la description du siècle présent. C'est quand même un... c'est déjà la première raison pour laquelle on ne voudrait pas y ressembler. Deuxièmement, notre premier point, la parole est très claire que l'orgueil repousse Dieu. Des textes comme Jacques 4, 6 nous disent que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est quelque chose. Dieu résiste aux orgueilleux. Bon, évidemment, ce texte-là s'adresse premièrement à ceux qui ne veulent pas placer leur confiance en Dieu, ne veulent pas se convertir. On est d'accord là-dessus. Quelqu'un est trop orgueilleux pour plier le genou, plier les chines devant la croix de Dieu, bien, Dieu va lui résister. Mais on ne voudrait certainement pas ressembler, même comme enfant de Dieu, à ces gens-là, auxquels Dieu va résister. On veut que notre intelligence soit renouvelée, et particulièrement dans ce domaine-là. Ça parle certainement que ça veut dire que Dieu résiste aux orgueilleux, certainement comme le texte de Job 35:12, hein? On a beau crier, alors Dieu ne répond pas. À cause de quoi? De l'orgueil des méchants. Donc, certainement que Dieu résiste, c'est une des façons que Dieu ne répond pas aux prières de ces gens-là. Deuxièmement, Dieu ne va pas les utiliser non plus. Imaginez que si Dieu utilise une personne pour faire quelque chose, il va s'enorgueillir. Dieu ne va pas le pousser à s'enorgueillir. Donc, ça va empêcher Dieu d'utiliser cette personne-là. Dieu ne voudrait pas être une occasion de chute pour cette personne-là. Il va s'organiser autrement, puis s'il faut, il va utiliser une roche. Dieu l'a dit, il pourrait utiliser des pierres pour le louer s'il le voulait. Et aussi, Dieu peut même retenir certaines bénédictions qu'il aurait eu en réserve pour cette personne-là. J'ai perdu Gilles le contrôle. Merci. Regardez le Proverbe 16:18 dit « L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. » Ça veut dire que souvent, lorsqu'on pose des gestes par orgueil, au lieu d'avoir l'objectif qu'on se propose avec ce geste-là, ça va être le contraire qui va se produire. Et le vendredi, présentement, on est en train d'étudier le livre d'Esther dans le groupe Maison. Et on regardait la semaine passée Aman, okay, qui était l'ennemi du juif Mardoché, qui même avait fait mettre un édit de détruire tous les juifs. Mais particulièrement, il détestait Mardoché. Pourquoi? Parce que Mardoché ne voulait pas s'incliner devant lui lorsqu'il passait. Tout un orgueil. Et Aman avait été même, il voulait faire tuer Mardoché. Il avait fait construire une potence, un poteau haut de 20 mètres, 75 pieds dans les airs, pour y pendre Mardoché. Et là, je vais prendre l'avance un petit peu, mais on va voir plus tard dans notre étude du vendredi que finalement, c'est lui-même qui va avoir été pendu à sa propre potence. Donc, son orgueil l'avait porté à poser un geste et ça servirait contre lui. Et c'est pour ça que je dis que ça va même servir contre nous lorsqu'on pose des gestes par orgueil. Donc, déjà, quand on regarde ça, on se dit que c'est une excellente raison pour se battre bec et ongles contre l'orgueil et ne pas se conformer à cet aspect du siècle présent. On voit aussi que l'orgueil nous pousse à commettre des péchés, à s'auto-détruire finalement. Des textes comme Proverbes 13:10, on voit que c'est seulement, pas entre autres, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, des chicanes. C'est toujours parce qu'il y a de l'orgueil. Si tu es dans une prise de bec avec quelqu'un, il y a toujours de l'orgueil. Et habituellement, c'est pas juste d'un bord, c'est des deux bords. Regarde, si tu as une chicane avec quelqu'un, regarde où tu as tombé dans cet orgueil. On voit aussi que l'orgueil nous égare. Il dit, ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Jérémie 49, 16. C'est là que je voulais mettre l'exemple d'Esther, du livre d'Esther de tout à l'heure, désolé. J'étais un petit peu à l'avance sur mon... Donc c'est ça. On a vu que l'orgueil a égaré Aman là-dedans. Et ensuite, ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 4-6, c'est que l'orgueil va même diviser le peuple de Dieu. Parce qu'évidemment, Paul, dans 1 Corinthiens, s'adresse aux chrétiens. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous, quoi, ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc, même dans l'Église, on peut retrouver cet orgueil-là, et ça va diviser l'Église. Ça va détruire l'Église du Seigneur. Donc, on est encouragé à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, à ne pas s'enorgueillir. Mais avec quoi on va remplacer cet orgueil-là? Parce qu'habituellement, quand on enlève quelque chose dans notre vie, c'est bon de le remplacer par autre chose. Donc, le texte se continue. Notre deuxième point, c'est de revêtir des sentiments modestes. Donc, mais de revêtir des sentiments modestes. Tout d'abord, on parle ici de revêtir, comme on le ferait avec un manteau en hiver. Hein? On le met par-dessus nous, et quand les gens vont nous voir, la première chose qu'ils vont voir, c'est ça. C'est ce dont on est revêtu. Ils ne verront pas notre T-shirt, ils ne verront pas notre chemise, ils ne verront pas notre gilet, ils vont voir le manteau qu'on a mis par-dessus. Okay? Mais c'est un petit peu ça. La première chose que les gens devraient voir ici est parler de sentiments modestes. Donc, lorsque les gens me croisent, me voient, ce qui normalement devrait apparaître en premier, ce sont des sentiments modestes. Il faut dire que ce que Paul a déjà mis dans le début de son épître, bien, ça nous aide un petit peu hein, à avoir des sentiments modestes. Quand il nous rappelait que, rappelez-vous Romains 3, 11 et 12, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Il n'y a pas grand place pour se péter les bretelles là-dedans. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est là où on était, là. C'est la description de ce que nous, on était avant que Christ nous sauve. Donc, il n'y a pas grand place pour de l'orgueil là-dedans. Donc, Paul nous a aidés déjà au début à se rabaisser le taquet. Pas de place pour les nez en l'air. Mais c'est là que Dieu nous a pris. C'est là où Dieu nous a transformés. Et maintenant, il veut qu'on ressemble à son image, à lui. Plus à ça. Il ne veut plus que ce soit ça à quoi on ressemble. Ce qu'on va ressembler maintenant, c'est à Dieu. Et Jésus nous a donné un très bon exemple. Hein? Quand on lit tous les évangiles, on voit la vie de Jésus. Un mot qu'on pourrait mettre sur la vie de Jésus, c'est humilité. Hein? Jésus ne s'est jamais enorgueilli, il n'a jamais cherché des apparats, toujours. Il s'est contenté de ce qu'il y avait. On voit vraiment que le ministère de Jésus a été accompli dans l'humilité. Et il nous a donné un exemple. Qu'on puisse ressembler à lui pour qu'on puisse suivre ses traces. Ça pourrait même faire c'est un très bon sujet pour une autre étude hein, éventuellement. Et le verset 16 de Romains 12 nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par quoi? Par ce qui est humble. » Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça pourrait vouloir dire de ne pas monter aux barricades. Si, exemple, dans l'Église, on est appelé à jouer un rôle, à avoir un ministère qui, pour nous, selon notre évaluation, est moins glorifiant ou moins important, peut-être. Pas parce qu'il est moins important, parce qu'on le juge moins important. Et ça nous fait penser un petit peu dans notre histoire du début au rôle de la pauvre veuve, qui, elle, aura pu dire, « Oh, ouais, mais moi... » Juste un ministère de prière, mais que son ministère était probablement le ministère le plus important, celui qui faisait toute la différence dans leur Église, probablement, dans cette Église-là. Donc, oui, ça peut nous appeler à jouer des rôles qui, des fois, on va trouver moins importants, mais non. Ça veut dire que si Anna, exemple, cet hiver, perd sa botte dans la neige, bien, personne ne peut dire, oh non, moi, je trouve important pour aller aider la petite Anna à trouver sa botte dans la neige. Il n'y a rien qui se passe dans l'Église pour lequel je suis trop important. C'est sûr que si je suis en train d'animer la louange, je ne vais pas laisser la louange pour aller nécessairement, mais ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis trop important que je ne vais pas, je vais pouvoir me soustraire finalement à porter secours à la petite pauvre petite Anna qui a un pied dans la neige, n'est-ce pas? Ça veut dire aussi que je peux être appelé peut-être à un moment donné à passer le tracteur, le gazon, tourner le gazon. C'est correct, si je suis appelé, à un moment donné j'arrive un matin et je vois qu'il y a de la neige dans la porte, que je pète la neige. Personne n'est assez élevé, important, pour ne pas avoir des ministères qui sont plus... Puis c'est pas nécessairement un ministère, des fois c'est juste un geste qu'on va poser. Oh, quelqu'un peut glisser là-dessus, je vais mettre un petit peu de sel dessus, il y a une flaque de glace. Donc, c'est aussi dans ton style de vie que tu vas reconnaître qu'une personne est revêtue, hein, est habillée de l'humilité. Tu vas voir dans son style de vie, c'est pas une personne qui est hautaine, qui cherche toutes les choses qui paraissent bien, puis je ne sais pas comment on pourrait l'appliquer, mais d'accepter que, regarde, c'est pour moi qui a la plus belle chemise, c'est pour moi qui a la plus belle cravate, le plus beau gilet, j'en ai un, je suis habillé, merci Seigneur. En même temps, ça ne veut pas dire de se négliger, mais ça veut dire de ne pas avoir cette attitude-là. Lorsque les gens nous regardent, c'est pas ce qu'ils voient, c'est pas de l'orgueil. Une autre petite pensée que j'avais trouvée, c'est l'humilité, c'est d'accepter la place que Dieu nous a réservée dans son Église. Peu importe que cette place-là soit dans l'ombre ou en avant. Donc, d'accepter la place que Dieu nous demande d'être dans son Église. Puis je parle beaucoup du contexte d'Église parce que on va le voir dans les prochains textes, là, que c'est vraiment dans un contexte d'Église que Paul est en train de nous parler. La troisième chose qu'on voit dans la fin du texte, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, donc, cette humilité-là va être, ou cette opinion de soi va être selon la mesure de foi que Dieu nous a départie. Si quelques mots nous indiquent exactement, finalement, la dose d'estime de soi qu'on pourrait avoir, sans que ce soit de l'orgueil. Okay? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Si, par exemple, quelqu'un me demande de jouer de la guitare, et puis que je lui réponds, non, moi je ne joue pas assez bien, j'aime mieux pas jouer, mais que je sais pertinemment que je sais jouer de la guitare, c'est un exemple, c'est pas de l'humilité ça, c'est de l'orgueil. Parce que ce que je m'attends, c'est que la personne va devoir insister, ben non, Jacques, tu joues tellement bien, j'aimerais ça que tu nous accompagnes ce chant-là, ou que tu nous joues tel chant-là. Donc, ce que je veux, c'est cette valorisation-là des gens. C'est de l'orgueil. C'est de la fausse humilité qu'on appelle. Et donc, ce n'est pas ça que ça veut dire de revêtir des sentiments humbles. Ce n'est pas de pas reconnaître ce que nous avons. Donc, le texte nous dit que mon opinion devrait être selon la mesure de foi que Dieu m'a départi, qui m'a accordé. Finalement, l'humilité demande donc que je sois conscient de ce que Dieu m'a donné et que j'agisse en fonction de cela. Si Dieu m'accorde un don particulièrement exceptionnel, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une opinion élevée de ma capacité. Peu importe quel serait notre domaine où on pourrait exceller. Mais j'excelle dans un domaine, ça ne veut pas dire que je ne peux pas reconnaître que j'excelle dans ce domaine-là. C'est pas ça que ça dit. Parce que si c'est la vérité, c'est correct que je crois que j'excelle dans ce domaine-là. Mais ce que le texte me dit, c'est de ne pas avoir une opinion trop élevée. C'est ça que le texte dit. Mon opinion ne devrait pas être trop élevée. Donc, elle devrait être conforme à ce qui est juste, ce qui est réel, à la vérité. Si Dieu m'a accordé un don pour jouer de la guitare, ben oui, Dieu m'a accordé la capacité de jouer de la guitare, puis oui, je peux bien le faire. Donc, il faut faire attention à ne pas basculer dans l'autre sens non plus. Et la fin du verset 16 dit « Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Donc, ça ne veut pas dire que je ne peux pas... évidemment, l'idée, c'est pas de dire « Moi, je suis sage. » Mais d'avouer que, OK, Dieu m'a doué d'une certaine sagesse pour accomplir ce ministère-là, ça, je pense que c'est la juste dose. C'est selon la mesure de foi que Dieu m'a départi. Donc, je dois reconnaître, parce que des fois, de reconnaître ses dons, c'est difficile. On ne veut pas verser dans l'orgueil, mais l'Esprit nous dit, l'Évangile nous dit, la Bible nous dit que chacun de nous, on a reçu des dons. Dire reconnaître, ce n'est pas de l'orgueil. Par contre, c'est vrai que ça peut arriver que quelqu'un pense qu'il a un don, qu'il ne l'a pas du tout. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'entendre un prédicateur, tu dis, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait en avant? La personne, tu vois qu'elle n'est pas douée. Elle n'a pas reçu les dons pour être prédicateur ou n'importe quel autre endroit. Ça pourrait être à la musique, ça pourrait être ailleurs. Mais oui, parfois une personne peut avoir une trop haute opinion, penser que oui, elle est équipée, puis moi je suis bon pour prêcher, mais finalement non. Elle n'a pas le don. Et ça, c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église de reconnaître nos dons. Donc, ce n'est pas mal de venir voir Yvon-Pierre et dire « Hey, Yvon-Pierre, moi, quand tu présides, je trouve que t'es vraiment doué pour ça. Moi, je suis édifié, j'aime vraiment ça quand tu es là. » C'est pas mal, c'est pas de l'enorgueillir, c'est de reconnaître que Dieu l'a doué pour faire ça. Ou d'aller voir Mathieu et Déborah, leur dire « Hey, c'est vraiment beau, j'aime ça quand vous jouez ensemble le piano. Dieu vous a doué pour faire ça. » C'est pas mal non plus d'aller voir une personne et lui dire, ben, sincèrement, ton partage ce matin, ça ne m'a pas édifié. Je n'ai pas trouvé ça édifiant. Il faut faire attention lorsqu'on fait ça, que ce ne soit pas juste des fois une opinion personnelle ou une mauvaise intention. Mais oui, l'Église va reconnaître de dire, c'est peut-être pas ta place. C'est peut-être pas ta place. Puis si ça l'arrive, rassurez-vous. Même si, puis ça m'est arrivé quelques fois dans mon implication dans l'Église dans le passé, où quelqu'un m'a dit, je pense que Jacques, c'est pas ta place. C'est dur. Je vous garantis, ça prend quelques semaines à vous relever le taquet qui vous a été baissé, surtout quand c'est quelqu'un qui est vraiment, que vous considérez beaucoup dans l'Église. Mais je pense que la personne avait raison. C'était pas ma place, puis Dieu m'a pris de là, il m'a mis ailleurs. Savez-vous ce qui est arrivé dans mon cheminement dans l'Église? Lorsque j'ai changé de ministère, j'aimais ce que je faisais. Je changeais de ministère, ah là, je tripais sur ce que je faisais. J'aimais ça encore plus, là, ce que je faisais. Puis hier, on a eu justement la formation sur la sonorisation. Et merci Seigneur, on avait 8 personnes qui sont venues prendre la formation. On était 10 hier. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir à transmettre. Ça, c'est quelque chose que j'ai tripé. À un moment donné, le pasteur qu'on avait à l'époque, il m'a dit, Jacques, je pense que tu devrais laisser la sonorisation parce que donc, je commençais à être formé dans le ministère. Il dit, c'est trop les deux. Puis j'ai retardé. Ouais, mais il n'y a pas personne pour prendre la place. Jacques, laisse la sonorisation. Ouais, mais il n'y a personne. Je suis tombé en dépression. Je me suis brûlé à faire les deux. Je n'ai pas écouté ce que la personne disait. Donc, rassurez-vous, lorsque ça vous arrive, Dieu vous a équipé pour un ministère dans l'Église. Et il vous reste peut-être juste à découvrir c'est lequel. Peut-être que ce n'est pas lui, mais il y en a un autre. Dieu ne vous a pas amené dans l'Église juste pour réchauffer les bancs. Dieu vous a amené dans l'Église pour une raison. Et ça va être le sujet des prochaines prédications qu'on va regarder dans notre épître ensemble. Mais consolez-vous. Si jamais vous voyez, ce n'est pas ma place, ce ministère-là, Dieu en a un autre. Ce n'est pas pour m'asseoir, c'est pour accomplir un autre ministère pour lequel Dieu m'a doué. Et je veux juste revenir sur l'image de tout à l'heure, le jeune prédicateur. Il y a 4 ans, le jeune homme. C'est drôle de le voir prêcher, mais tout ce qu'il fait finalement, c'est de répéter des expressions puis des mimiques qu'il a vues faire par les prédicateurs de son église. Évidemment, c'est une église très charismatique aussi, là. Donc, il crie beaucoup, puis Mais imaginez-vous le mal que son Église est en train de lui faire. Il l'appelle le plus jeune prédicateur au monde. Non, c'est un comédien. Un imitateur, c'est un comédien. C'est pas un prédicateur. Imaginez-vous le mal que sa propre Église est en train de lui faire à ce jeune-là. S'il n'est pas appelé, peut-être que plus tard il va être appelé comme prédicateur. Pas à 4 ans, ça ne se peut pas. Mais si ce n'est pas sa place, comment ce jeune homme-là, depuis sa tout jeune enfance, se fait dire qu'il est un prédicateur, puis que tu arrives à l'âge de 30 ans, tu dis, regarde, tu n'es pas prédicateur du tout. Mon Église m'a toujours dit. Donc, c'est le rôle de son Église. Il dit, non, tu n'es pas... C'est un comédien présentement. On trouve ça vraiment drôle quand tu le fais. Veux-tu le faire pour nous autres? On va pouvoir rire ensemble. Mais non, il n'est pas le prédicateur. Ce n'est pas un prédicateur. Puis le mal que lui-même, s'il croit qu'il est vraiment un prédicateur, le mal qu'il va pouvoir faire en prêchant, sans être dirigé par l'Esprit de Dieu dans ce qu'il va faire, il peut faire bien plus de mal que de bien. Lui, oui, il va peut-être nous faire rire, mais faisons attention à ça, de ne pas comme Église, de ne pas alimenter les choses qui ne sont pas vraies, mais de reconnaître les choses, les dons des gens. Donc, dans le cas où ton don est confirmé par l'Église, okay, Dieu confirme le rôle de président, on va le voir dans les prochaines fois, c'est un don dans l'Église. Ils sont appelés à être président. Si on dit à Yvon-Pierre qu'il est appelé à être président, en même temps, l'humilité va lui permettre de dire, oui, Dieu m'a équipé pour que je sois un bon président dans l'Église, mais c'est une grâce que Dieu m'a faite. Dieu m'a accordé cette grâce-là, et de toute façon, ça vient de lui. Donc, voyez-vous que même si Yvon-Pierre reconnaît son don, il reconnaît que ça vient de Dieu. Il redonne la gloire à Dieu et il n'est pas en train de s'en enorgueillir. Ce n'est pas parce qu'il est bon, c'est parce que Dieu l'a rendu. Bon, Dieu l'a équipé pour jouer ce rôle-là. Donc, oui, tu peux reconnaître qui tu es, qu'est-ce que Dieu a fait de toi, le don qu'il t'a donné, puis demeurer une attitude humble. Et on va le voir, le but justement de ces dons-là, plus tard dans notre étude. Donc, pour conclure, garde-toi d'avoir de toi-même une trop haute opinion, mais plutôt une opinion véridique, justifiée et juste aussi. La juste opinion de qu'est-ce que Dieu a fait de toi. Une opinion qui est vérifiée auprès des frères et sœurs et une opinion qui est conforme à la mesure de foi que Dieu t'a accordée. On va s'arrêter ici pour cette semaine. Dans les prochaines semaines, on va continuer à élaborer sur le sujet de l'Église. On va voir que l'on rentre vraiment dans le sujet à la lumière des versets principalement 4 à 8. Et voir comment Dieu, comment l'Évangile a permis que l'Église soit comme un corps, forme un tout, soit équipée avec toutes ces variantes qui sont complémentaires, et qui forme un assemblage solide. Ça, c'est l'expression de Corinthiens, mais l'idée reste dans notre épître. Donc, la semaine prochaine, on continue avec le verset 4 et les suivants. On va se courber pour conclure. Bien oui, notre bon Papa du ciel, on veut te remercier. Te remercier, Seigneur, parce que on n'a pas à se péter les bretelles de qui on est, de ce qu'on est capable de faire, parce que de toute façon, Seigneur, ça revient à toi. Cette gloire revient à toi seul, Seigneur. Mais dans ta grâce, Seigneur, je te prie d'ouvrir les yeux de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs qui sont ici dans l'Assemblée, qui puissent voir, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait d'eux, là où tu les as équipés, et qui puissent, Seigneur, vivre une vie chrétienne épanouie en t'observant dans leur domaine, dans leur champ de compétences. Seigneur Dieu, on a besoin de la direction de ton esprit, que tu puisses animer les frères et sœurs autour de nous aussi pour nous aider à confirmer, Seigneur, l'appel que tu as mis sur nous, dans ton Église. Seigneur Dieu, glorifie ton nom, et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Je vais inviter Victor maintenant à venir, peut-être juste les musiciens, on va terminer. Pendant la distribution, juste une consigne, quand on va distribuer les éléments, on ne va pas chanter, on va juste écouter la partie instrumentale, et après ça,